Bonsoir le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition de 19h30 temps universel. Eric Mandelakidza avec vous, voici d'abord les principaux titres. Le M23 et ses alliés rwandais contrôlent ce mercredi la quasi-totalité de Goma, grande ville de l'est de la RDC, et avancent sur un nouveau front dans le sud de Kivu. Le président Félix Tshisekedi doit s'adresser à la nation avant la fin de la journée. Les États-Unis ordonnent le départ des employés non essentiels de la RDC. Brussels Airlines suspend ses vols vers Kinshasa jusqu'à jeudi, tandis que des paramilitaires roumains au service de Kinshasa se rendent aux autorités rwandaises. En Afrique de l'Ouest, le Burkina, le Mali et le Niger quittent officiellement la CDAO, mais l'organisation reste ouverte au dialogue. Israël annonce la libération cette semaine de 11 otages retenus à Gaza. Le président Sisi de l'Égypte et le roi de Jordanie affirmaient que les Palestiniens doivent rester sur leur terre. Vous suivrez également l'actualité sportive et l'économie, mais tout d'abord le journal. Après qu'ils ont quasiment pris le contrôle de la ville de Goma dans l'est de la RDC, le M23 et les troupes rwandaises ont avancé ce mercredi sur un nouveau front en s'emparant de deux localités dans la province voisine du sud Kivu, selon des sources locales. Dans le centre de Goma, coincé entre le lac Kivu et la frontière du Rwanda, les habitants ont recommencé à circuler. Le manque d'eau, d'internet et d'eau courante font partie désormais de la vie de ceux qui sont restés à Goma. Nous avons joint tout à l'heure notre correspondant sur place, Fiston Issemouami.
Alors, il est aussi important de préciser qu'aujourd'hui, avec le troisième jour de cette semaine, il n'y a vraiment pas d'affrontements dans la ville de Goma. Là, telle que la radio-télévision nationale congolaise, et qui ont pris déjà bien 23, et sans compter le port public de Goma, où les populations pouvaient prendre le bateau pour se rendre dans la province voisine du sud Kivu à Bukavu. Il faut noter également que le porte-parole militaire bien 23 nous a certifié aujourd'hui qu'il a été à l'aéroport international de Goma l'après-midi du mardi. Donc, la situation en ville de Goma est sous contrôle. Toute la ville est sous contrôle du mouvement du 23 mars du 1-23. Et au-delà de ça, il faut spécifier également que les corps de tous les militaires qui ont été abattus dans les arrières des affrontements du lundi, de cette semaine, bien sûr, les corps vivent encore jusqu'à maintenant, les corps sont en même espace. Les services n'ont pas encore commencé, les services n'ont pas encore commencé à enlever tous les corps dans différentes parties de la ville. Les corps sont vraiment éparpillés dans la ville. La population craint que ces corps ne se décomposent, que la maladie n'attaque ces populations qui consomment aujourd'hui l'eau du lac Kivu par manque d'eau potable, puisque je rappelle déjà que depuis une semaine déjà, maintenant que la ville est toujours dans le noir, pendant qu'il n'y a pas d'électricité. La ville est dans le noir, en ce cas, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de connexion Internet jusqu'à maintenant. La ville est vraiment tout en étant sous contrôle du 1-21.
Silencieux depuis le début de l'offensive sur Goma, le président congolais Félix Tshisekedi doit s'adresser à la nation avant la fin de la journée, selon la télévision nationale. Son gouvernement a dénoncé une déclaration de guerre du Rwanda et a assuré vouloir éviter le carnage. De nombreuses voix à l'étranger continuent de déplorer les violences qui touchent l'est de la République démocratique du Congo. On va commencer avec les réactions en Afrique face justement à cette intensification des combats à l'est. Le point avec Djili Niwa.
Le président de la République démocratique du Congo, RDC, ne participera pas à la réunion avec son homologue rwandais Paul Kagame, prévue dans la journée lors d'un sommet extraordinaire de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, au Kenya, pour tenter de dénouer la crise dans l'Est de la RDC. Une responsable de la MONUSCO alerte sur la détérioration de la situation sécuritaire pour les civils et met en garde contre les risques d'attaques sur des bases ethniques alors que d'intenses combats ont laissé les rues jonchées de cadavres à Goma. L'Union africaine, qui s'est réunie d'urgence après une intensification des combats, a exhorté mardi les combattants du M23 à déposer les armes. Le président angolais, João Lourenço, qui dirigeait les derniers efforts de médiation entre les deux pays, déplore l'occupation de la ville de Goma et appelle au retrait immédiat du M23 et des forces de défense rwandaises du territoire congolais dans un communiqué diffusé mercredi.
Djini Niwa. Tour d'horizon des réactions internationales avec Jacques Aristide.
Alors qu'une nouvelle tentative diplomatique a échoué ce mercredi avec le refus du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, de prendre part à une réunion virtuelle avec son homologue rwandais, Paul Kagame, la pression internationale s'accroît pour mettre fin à la crise dans la région orientale de la RD Congo. L'Allemagne a mis sur pause des pourparlers avec le Rwanda sur son aide au développement exigeant du pays africain et de ses alliés du M23 qu'ils retirent leurs forces de l'Est congolais. Pékin, par la voix de son ambassadeur Foukang à l'ONU, espère que Kigali entendra les appels à ne plus soutenir le M23.
La Chine exige que le M23 cesse toute hostilité et batte en retraite de Goma et des autres zones occupées. La Chine espère que le Rwanda entendra l'appel de pays africains et du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il faut cesser de soutenir le M23 d'un point de vue militaire.
Le chef de la diplomatie britannique, David Lammy, indique avoir parlé à Paul Kagame et appelé à la désescalade, soulignant la nécessité pour le Rwanda et la RDC de retourner d'urgence à la table des négociations.
La vérité est que si nous étions témoins des horreurs d'El Fasher et de Goma sur n'importe quel autre continent ou d'ailleurs, de la violence extrémiste au Sahel et en Somalie, n'importe où ailleurs dans le monde occidental y accorderait beaucoup plus d'attention. En fin de compte, cependant, nous avons besoin d'une solution politique. Nous savons que les rebelles du M23 n'auraient pas pu prendre Goma sans le soutien matériel des forces de défense rwandaises.
Selon l'Élysée, le président français Emmanuel Macron multiplie les contacts pour permettre une désescalade. À Bruxelles, son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a fermement condamné l'offensive militaire du M23 et des soldats rwandais sur le sol congolais.
Alors que Goma s'apprête à tomber, la France exprime sa solidarité à l'égard de la République démocratique du Congo, de son intégrité territoriale. La France condamne fermement l'offensive menée par le M23 soutenu par les forces armées rwandaises qui ont entraîné la mort de 6 casques bleus et provoqué le déplacement de plusieurs dizaines de milliers de personnes civiles. Les combats doivent cesser et le dialogue doit reprendre. C'est en ce sens que la France s'est exprimée hier au Conseil de sécurité des Nations Unies.
L'ONU, les États-Unis, la Chine, l'Union européenne et l'Angola réclament que le Rwanda retire immédiatement ses forces de la RDC. Le pape François demande également de tout faire pour mettre un terme au combat.
J'exprime mon inquiétude quant à l'aggravation de la situation en matière de sécurité en République démocratique du Congo. J'exhorte toutes les parties au conflit à s'engager en faveur de la cessation des hostilités et pour la sauvegarde des populations civiles de Goma et des autres régions concernées par les opérations militaires. Je suis également avec appréhension ce qui se passe dans la capitale, Kinshasa, en espérant que toutes les formes de violence contre les personnes et leurs biens cesseront dès que possible. Je prie pour le rétablissement rapide de la paix et de la sécurité.
Après les manifestations ayant pris pour cible plusieurs ambassades à Kinshasa, les États-Unis ont appelé leurs ressortissants à quitter la RDC. La Belgique a déconseillé aux siens d'y voyager et la compagnie aérienne Brussels Airlines a annulé sa desserte de la capitale congolaise ce mercredi.
Des dizaines de soldats roumains d'une société militaire privée opérant dans l'est de la RDC ont traversé la frontière avec le Rwanda voisin ce mercredi pour se rendre aux autorités du Rwanda, selon Kigali.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Afrique de l'Ouest, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, dirigés par des régimes militaires, quittent officiellement ce mercredi la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, après plus d'une année de fortes tensions diplomatiques. L'organisation a toutefois décidé de rester ouverte au dialogue. Alexandrine Rolognon.
L'institution régionale décide de rester ouverte au dialogue, a déclaré Omar Aléo Touré, le président de la commission de la CEDEAO, à l'occasion d'un camp de presse à Abuja, la capitale du Nigeria. Il précise également que tous les pays peuvent décider de revenir dans la communauté à n'importe quel moment. La CEDEAO a demandé à ses pays membres, désormais au nombre de 12, de reconnaître jusqu'à nouvel ordre les passeports et cartes d'identité nationaux portant le logo de la CEDEAO détenus par les citoyens des pays sortants. Ces derniers devraient pouvoir continuer à jouir jusqu'à nouvel ordre du droit de circulation, de résidence et d'établissement sans visa, conformément au protocole de la CEDEAO en la matière, stipule un communiqué de l'institution. Les échanges de biens et de services entre les pays sortants et les pays membres pourront également se poursuivre selon les règles en vigueur de l'institution.
Voilà pour le journal. Vous allez maintenant suivre la Minuteco.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Echo signée John Lyndon.
La compagnie aérienne Brussels Airlines a annulé sa desserte de Kinshasa mercredi au lendemain de manifestations ayant pris pour cible plusieurs ambassades dans la capitale, notamment celle de la Belgique. La suspension de cette desserte est pour l'instant limitée à mercredi, mais la situation dans la capitale congolaise est suivie de près. Elle sera examinée de façon approfondie et minutieuse. Transport aérien toujours cette fois, c'est Royal Air Maroc qui ouvre une ligne directe Cameroun-Canada. Le site ecomatin.net nous informe qu'alors que le gouvernement camerounais envisage de développer une liaison aérienne directe entre Douala et Toronto via la compagnie nationale Camerco, en partenariat avec le constructeur aéronautique canadien Bombardier, le transporteur marocain a lui déjà pris les devants en ouvrant cette nouvelle route. La Guinée équatoriale sollicite le constructeur nigérien IVM pour développer une industrie automobile locale. Selon le site ecomatin.net, cela s'inscrit dans une volonté affirmée des diversifications économiques. Une délégation de la Guinée équatoriale a ainsi récemment rencontré le constructeur nigérian Innoson Vehicle Manufacturing afin d'étudier la mise en place d'une industrie automobile locale, réduisant ainsi sa dépendance aux importations.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yakuba Ouedraogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Football d'abord, Lookman Ademola, absent pendant 3 semaines.
Oui, l'Atalanta Bergame sera privée de son buteur nigérien qui s'est blessé au genou droit pendant 3 semaines selon l'annonce faite par le club de Serie A, ajoutant que la durée prévisible de son indisponibilité est d'environ 3 semaines. Lookman Ademola, auteur d'un triplé en finale de la dernière Ligue Europa face au Bayer Leverkusen, va ainsi manquer le déplacement à Barcelone ce soir dans le cadre de la 8e et dernière journée de la phase de Ligue des Champions. Il va aussi rater au moins les 3 prochaines journées de championnat avec des matchs contre le Torino, à Vérone contre Cagliari, sans oublier le quart de finale de Coupe d'Italie le 4 février contre Bologne. Lookman, 27 ans, a inscrit 14 buts cette saison et réalisé 6 passes décisives, toutes compétitions confondues. L'Atalanta, 3e du championnat d'Italie à 7 points du leader Naples, occupe la 7e place au classement de la Ligue des Champions et se qualifiera directement pour les 8e de finale en cas de succès sur le terrain du Barça, déjà qualifié pour ses 8e.
Justement, Yakuba, la dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions se joue ce soir.
Justement, Manchester City de la nouvelle recrue, l'Égyptien Omar Marmouche, actuellement inéligible avec City en Ligue des Champions, joue son avenir sur un seul match contre Bruges. Un quitte ou double qui met une grosse pression sur Pep Guardiola. Autre ogre européen un peu en difficulté, le Real Madrid, assuré de disputer les barrages, mais avec peu de chances d'atteindre le top 8 qui qualifie directement pour les 8e de finale. Adversaire de Brest pour cette dernière journée de la première phase, le Real s'améliore, mais n'a pas encore montré son meilleur visage, a estimé son entraîneur Carlo Ancelotti. De son côté, Monaco peut faire pencher sa saison du bon côté à Milan contre l'Inter, où une victoire pourrait lui offrir l'accès direct aux 8e de finale. Les monégasques connaissent cependant un coup dur. Leur meilleur défenseur, Wilfried Tsingo, l'Ivoirien, auteur de 2 buts en Ligue des Champions cette saison, est forfait, touché au ischio jambier contre Villa. Il sera sur le flanc entre 3 et 5 semaines.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. De retour avec vous, Eric Manirakiza, pour l'instant, les dossiers du jour. La France reconnaît sa responsabilité dans la répression des mouvements indépendantistes et d'opposition entre 1945 et 1971 au Cameroun, avec notamment l'assassinat de certains leaders de l'Union des populations du Cameroun UPC, parmi lesquels son chef de file Ruben Niobe. C'est ce que révèle le rapport de la commission Mémoire élaboré par une dizaine de chercheurs français et camerounais. Ce rapport a été remis hier au président Paul Biya de Yaoundé. La correspondance est signée Emmanuel Jules-Tamp.
Le rapport contient plus de 1000 pages après dépouillement de 1100 cartons d'archives, 2300 documents déclassifiés et une centaine d'entretiens réalisés. Karine Ramondi, historienne française, a dirigé l'équipe d'experts français et camerounais, auteur du rapport sur le rôle et l'engagement de la France dans la répression d'un mouvement nationaliste et d'opposition au Cameroun entre 1945 et 1971.
À ce titre, nous mettons en lumière l'existence de violences répressives et de massacres, notamment celui d'Équité et de Balaisigne, exercés par les autorités coloniales et l'armée française, avant et après l'indépendance, et la mise en place de faux partis cooptés par les autorités françaises, et ce malgré le mandat donné par l'ONU devant permettre une émancipation et le progrès du territoire vers l'autonomie et l'indépendance.
La commission Mémoire France-Cameroun a également officiellement levé un pan de voile sur la mort de 6 leaders indépendantistes camerounais, tous militants de l'Union des populations du Cameroun UPC, parmi lesquels Ruben Niobe, assassiné le 13 septembre 1958 au cours d'une opération dirigée par un capitaine de l'armée française. Karine Ramondi, historienne française.
Les violences multiples et illégales exercées par les troupes coloniales et camerounaises placées sous le commandement d'officiers de l'armée française dans le cadre d'une guerre totale, inspirée par la doctrine de la guerre révolutionnaire et qui ont inclus assassinats, emprisonnements arbitraires, déplacements massifs de population et la responsabilité de l'armée française et de l'État français dans la mort et les assassinats de certains leaders de l'UPC. Isaac Niobe-Pandjok, Ruben Niobe, Félix Roland Moumier, Paul Momo, Jérémy Ndélené.
L'historien camerounais Samuel Efoua Mbozo se réjouit de ce que le silence soit enfin brisé sur 26 années troubles de l'histoire au Cameroun.
On avait comme l'impression qu'on avait peur de parler, n'est-ce pas, de cette période, tout simplement parce qu'effectivement, elle était mal connue, d'un, et ensuite, elle avait laissé des séquelles, n'est-ce pas, dans les esprits des Camerounais.
C'est au cours d'une visite au Cameroun en juillet 2022 que le président français Emmanuel Macron a annoncé la mise sur pied d'une commission mémoire sur l'action française avant et après la colonisation au Cameroun. Les résultats de cette commission doivent être à présent divulgués, souligne le président du Cameroun, Paul Biya.
Il nous appartient dès à présent d'enseigner et surtout de vulgariser ces travaux méritoires de co-construction entre la France et le Cameroun et d'engager nos futures relations sur des bases saines, dans un esprit dépouillé de malentendus et de suspicions.
Les autorités camerounaises envisagent adopter de nouveaux programmes d'enseignement, l'élévation des lieux de mémoire et encourager la recherche scientifique sur ce pan révélé de l'histoire entre la France et le Cameroun. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Depuis un moment, la Côte d'Ivoire fait face à une fuite de ses produits agricoles vers les pays voisins. Un phénomène nourri et encouragé par des exportateurs qui vendent leurs produits deux fois plus cher qu'en Côte d'Ivoire, selon les autorités. Une véritable perte pour les producteurs ivoiriens. Le reportage de notre correspondant à Abidjan, Ange Nomenga.
Le 14 janvier dernier, les autorités ivoiriennes ont saisi 4 tonnes de café dans un camion qui était en partance pour Bamako au Mali. Les investigations ont permis d'établir que ce camion exportait les produits de manière frauduleuse et les conducteurs ont été mis aux arrêts. Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien.
Les personnes qui s'adonnent à ces activités illicites encourent notamment la confiscation au profit de l'État des objets et produits des infractions, le retrait du passeport, de l'agrément et la suspension du permis de conduire. En outre, il est institué dans chacune des régions frontalières de la Côte d'Ivoire un comité régional de lutte contre la commercialisation et l'exportation illicite de produits agricoles soumis à agrément, présidé par le préfet de région.
Malgré ces mesures prises par l'État ivoirien, le phénomène persiste et continue de prendre de l'ampleur. Selon des spécialistes, 150 000 tonnes à 200 000 tonnes de produits agricoles vont vers les pays voisins. Une situation qui irrite les producteurs locaux. Guy Mao, producteur ivoirien.
Nous avons toujours dénoncé cela pour la simple raison que cela impacte notre économie. Vous êtes sans ignorer que notre économie repose sur l'agriculture et c'est avec les revenus des produits agricoles que nous pouvons avoir les routes, les écoles et j'en passe. Et cette situation, de plus en plus, connaît un accroissement au niveau de son impact. Aujourd'hui, nous ne dombrons plus de 200 camions par jour ou bien par jour qui vont dans les pays voisins. Nous encourageons les autorités vraiment à prendre des dispositions pour que cela cesse.
L'exportation illicite des produits agricoles est due notamment à l'écart des prix. Les exportateurs vendent deux fois plus cher leurs marchandises dans les pays voisins qu'en Côte d'Ivoire. Certains producteurs ivoiriens sont complices de cette activité illicite, selon Yves Brahima Kone, président du conseil Café Cacao.
Si le planteur est en complicité avec son client traditionnel, on lui donne un papier, on met 1000 francs dessus, puis il accepte 700 francs. Qui va défendre ça? C'est facile après de se défendre, pour dire, de se plaindre, pour dire on ne paye pas le prix que je veux, que le gouvernement a fixé. Il faut que nous, en tant que planteurs, nous acceptons de refuser le prix que des gens viennent nous proposer qui n'est pas le bon prix.
En 2020, l'État ivoirien a adopté une ordonnance portant répression de la commercialisation et de l'exportation illicite de produits agricoles soumis à agrément. Elle prévoit à cet effet la confiscation et la vente immédiate des produits saisis ainsi que des moyens de transport selon une procédure judiciaire simplifiée. Ange Bijounomélian pour VOA Afrique, à Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Une nouvelle version du drone cargo autonome Windrush Ultra avec deux fois plus de puissance et 50% de charge utile en plus a été choisi par l'ONG Aviation Sans Frontières pour des missions d'aide humanitaire d'urgence en Afrique. Davantage avec Jacques Aristide.
L'Ultra Mark II a une portée allant jusqu'à 1000 km et peut transporter jusqu'à 150 kg de charge utile. L'appareil peut également atteindre jusqu'à 9 heures de vol et atterrir sur pratiquement n'importe quel terrain, s'arrêtant à 150 mètres. Il peut fonctionner de jour comme de nuit, dans le brouillard et avec une surveillance minimale de l'opérateur au sol. Simon Moudérac est le patron de Wind Racers.
Le Mark II est l'aboutissement des 5 ou 6 dernières années d'efforts et d'expériences des clients réels dans des environnements du monde entier. Ce que vous voyez est donc un drone qui ressemble globalement au précédent, mais avec deux fois plus de puissance, deux fois plus de charge utile, plus de 80 changements qui augmentent sa facilité d'utilisation, sa fiabilité et d'un point de vue extérieur. Le grand changement est évidemment l'empennage en V à l'arrière qui, selon moi, est assez spectaculaire.
L'appareil britannique est aujourd'hui opérationnel en Ukraine, au Royaume-Uni et aux États-Unis, permettant de transporter des charges utiles importantes vers des endroits difficiles d'accès rapidement, en toute sécurité et à moindre coût.
Le drone est conçu pour être transporté dans le monde entier, dans des conteneurs, tout comme à l'arrière d'une camionnette type Luton, là où il doit fonctionner. Nous n'avons pas besoin d'une infrastructure aéroportuaire traditionnelle pour l'exploiter. Nous en sommes très satisfaits. On peut le transporter dans un champ plat et le sortir de l'arrière d'une camionnette pour l'exploiter avec succès.
L'appareil a été conçu à l'origine pour réduire le coût de l'acheminement de l'aide humanitaire dans les communautés isolées. Il le fera bientôt pour l'ONG française Aviation Sans Frontières, qui prévoit d'intégrer un drone lourd et longue distance dans la chaîne d'approvisionnement de l'aide humanitaire. Benoît Gaborit de l'ONG Aviation Sans Frontières.
The daily job for ISF is going where the others cannot go anymore for the...
Le travail quotidien d'ASF consiste à aller là où les autres ne peuvent plus aller, comme les compagnies aériennes régulières. Et c'est pourquoi nous voulons utiliser le drone pour avoir accès aux populations et parce que le risque pour les travailleurs humanitaires augmente chaque jour. Vous avez des exemples au Mali, au Burkina Faso ou au Niger. Il y a 10 ans, nous pouvions y accéder avec les avions. Mais maintenant, nous utilisons des hélicoptères pour cela. D'autres ONG le font aussi. On laisse le moteur en marche, on atterrit pas dans 5 minutes et ensuite on doit repartir parce que la sécurité n'y est pas.
The security is not controlled, is not safe.
Outre l'acheminement de l'aide humanitaire, le drone sera également utilisé pour transporter des systèmes radars pour un centre de recherche norvégien afin de détecter les changements du climat en Antarctique. Wind Racers prévoit de construire un Ultra Mark II par jour et de le vendre au prix d'une voiture familiale ou de facturer le chargement tant que service comme toute autre entreprise de logistique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'administration Trump a ordonné une pause de 3 mois sur la quasi-totalité de l'aide au développement à l'étranger, dans l'attente d'un examen visant à déterminer ce qui s'inscrit dans sa politique de l'Amérique d'abord. Les groupes d'aide et les organismes de défense des droits de l'homme préviennent que cette décision pourrait mettre en danger d'innombrables vies dans le monde. Le reportage d'Anita Powell avec le récit d'Odili Dico.
Les États-Unis ont dépensé un peu moins de 70 milliards de dollars pour l'aide à l'étranger au cours de l'année fiscale 2023, la plupart par le biais de l'Agence américaine pour le développement international USAID. Les États-Unis sont le plus grand fournisseur d'aide humanitaire au monde et un leader mondial en matière de prévention et de traitement du VIH par le biais du plan d'urgence du président pour la lutte contre le sida, PEPFAR. Le président Donald Trump a gelé toute l'aide étrangère, à l'exception de l'assistance alimentaire d'urgence, dans le cadre de sa volonté de réaligner la position étrangère des États-Unis sur sa politique America First, l'Amérique d'abord. Le décret suspend les nouvelles obligations et le décaissement des fonds d'aide au développement pendant 90 jours, le temps qu'ils soient examinés. La Maison-Blanche a expliqué les raisons d'une mesure similaire qui suspend toutes les subventions et tous les prêts fédéraux à partir de mardi, bien que la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, n'ait pas précisé quels programmes nationaux étaient mis en cause.
Au cours des 4 dernières années, nous avons vu l'administration Biden dépenser de l'argent comme des marins ivres. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons connu une crise inflationniste dans ce pays. Et il incombe à cette administration de s'assurer, une fois encore, que chaque centime est comptabilisé honnêtement.
La Maison-Blanche n'a pas répondu aux questions de la VOA qui souhaitait obtenir plus de détails sur les programmes d'aide à l'étranger qui seraient touchés. Les groupes humanitaires tirent la sonnette d'alarme au sujet des programmes étrangers dont certains se concentrent sur des questions telles que l'égalité des sexes, le développement des entreprises et surtout la fourniture de médicaments contre le VIH financés par les États-Unis que les responsables de M. Biden ont qualifiés de piliers essentiels des relations de Washington avec les pays en développement. Stéphane Dujarric est le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies.
Le secrétaire général prend note avec inquiétude de l'annonce d'une pause dans l'aide étrangère des États-Unis. Il demande que des exemptions supplémentaires soient envisagées afin de garantir la poursuite des activités humanitaires et de développement essentielles pour les communautés les plus vulnérables à travers le monde. Ses vies et ses moyens de subsistance dépendent de ce soutien.
Le plus grand projet de l'USAID pour l'année fiscale 2023 a fourni 14 milliards de dollars d'assistance non militaire à l'Ukraine. Les organismes des droits de l'homme se félicitent de l'obligation de rendre compte de l'utilisation des fonds des contribuables américains, mais pas de l'interruption de l'aide pendant l'examen.
C'est la fin de cette deuxième édition du Monde Aujourd'hui. Eric Manelakiza a été avec vous. Josèle Morissin a assuré la mise en onde. Vous retrouvez dans quelques instants Jean-Roger Guillon qui revient pour...